18-20. Fabienne Saint-Est.
La forêt française vue d'avion va bien. 31% du territoire. En 20 ans, elle a gagné 10 fois la surface de Paris. Maintenant, si on se rapproche un petit peu des arbres, on en voit qui souffrent, qui meurent plus jeunes qu'à l'ordinaire. On voit que leur croissance ralentit. On voit des parasites qui en font leur repas. On voit que la sécheresse est féroce. On voit que le changement climatique, nos forêts le subissent au quotidien. Y a-t-il meilleure synthèse d'ailleurs que la forêt pour avoir à nos pieds tous les enjeux du changement climatique et aussi de la transition bas carbone? La forêt, c'est notre absorbeur de CO2 le plus naturel du monde. Elle préserve la biodiversité, elle fournit le matériau nécessaire à la transition énergétique, elle nous chauffe aussi parfois, elle crée des emplois. Elle est privée aussi pour les trois quarts de sa surface. Alors, ce soir, avec notamment l'appui de l'inventaire de l'UGM qui décrit les écosystèmes, les ressources en bois, tout ce qui fait la forêt, nous allons essayer de comprendre, est-ce qu'on en demande trop à la forêt? Est-ce qu'on devrait l'exploiter moins, l'exploiter mieux? Est-ce qu'au contraire, pour la préserver, il faut la soigner mieux, la protéger différemment? Donc, entrer vraiment dedans, est-ce qu'elle est en danger pour les décennies à venir? Et j'ai aussi envie d'ajouter, est-ce que notre manie de planter des arbres pour nous dédouaner d'avoir pris l'avion, tout cela a-t-il vraiment un sens? C'est le téléphone sonne ce soir, et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Olivier, c'est vous le premier. Bonsoir Olivier, bienvenue.
Bonsoir, merci. Je voulais savoir, je posais la question, est-ce qu'il n'y a pas aussi une contradiction entre l'utilisation de plus en plus promue du bois énergie comme étant une énergie renouvelable et cette forêt française qui va être de plus en plus sollicitée et soumise aux aléas du réchauffement climatique? Voilà.
Eh ben, question rapide, merci beaucoup, et réponse rapide, enfin ça on le verra, avec nos invités. François Morneau est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chargé de mission à l'inventaire forestier national, précisément. Sylvain Angeran est avec nous également, bonsoir monsieur Angeran.
Bonsoir.
Vous êtes ingénieur forestier, coordinateur de campagne à l'association Canopée. Je salue Sandy Dauphin aussi. Bonsoir,
bonsoir.
Sandy, journaliste spécialiste environnement à France Inter. Je vais vous poser la question à tous les deux. François Morneau, le bois de chauffage, le bois énergie, je vais y mettre des guillemets, je veux surtout pas me faire engueuler, le bois écolo, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente dans nos forêts? On le sait, ça, ou pas?
Alors, le bois énergie, effectivement, c'est quelque chose qui est important. On a une énergie renouvelable avec le bois. Elle est renouvelable parce que les forêts continuent de pousser et qu'elles captent du carbone. Et évidemment, on peut l'utiliser pour se chauffer. Mais quand on brûle du bois, on relargue aussi tout de suite le carbone qui était stocké dans cet arbre. Et la forêt pousse pas au même rythme que celui à laquelle on brûle ce bois. Donc toute la question, en fait, de l'utilisation de cette énergie, parce qu'elle a des certains intérêts, c'est la question notamment de la hiérarchie des usages en forêt. C'est-à-dire de ne pas prendre des arbres qui peuvent servir à construire des maisons, à fabriquer des choses, et pour les brûler directement, plutôt stocker du bois dans la construction et utiliser les coproduits, les sciures et les déchets et les arbres de faible dimension en énergie.
Sylvain Angeran, là-dessus, vous, l'ingénieur forestier de l'association Canopée, est-ce qu'au fond, sûrement avec de bonnes intentions, on la sollicite trop de ce point de vue-là, notre forêt française?
Oui, bah déjà je trouve ça très intéressant qu'on ouvre cette émission avec la question du bois énergie, parce qu'il y a encore quelques années, c'était un sujet qui était très peu abordé. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement en France, mais même en Europe, on exploite de plus en plus la forêt, et c'est pas pour faire du bois d'œuvre, du bois qu'on va utiliser pour construire nos maisons, ça on en parlera pour la suite, c'est une récolte qui stagne en France. Par contre, la récolte, elle continue d'augmenter sur des utilisations énergétiques. Alors, le bois énergie pour se chauffer, pour faire des granulés. Et ce qui nous inquiète, c'est que maintenant, on veut commencer à faire des biocarburants pour pouvoir faire voler des avions, par exemple, comme c'est le cas à côté Gardanne. Donc la forêt, c'est une ressource qui est fantastique parce qu'elle est renouvelable, mais elle souffre. Donc il faut en prendre compte. Et puis, renouvelable ne veut pas dire illimité.
Donc ce que ça veut dire, c'est que y a beaucoup d'idées qu'on dit vertes, en fait, et dont on a le sentiment que ce sont vraiment des avancées. Il faut, Sylvain Angeran, si je vous entends bien, il faut tordre le cou à certaines de ces idées-là, en fait. On croit qu'on fait, on a un poêle à granuler, par exemple, on croit qu'on fait du bien à la nature. C'est pas forcément le cas.
Bon, non, on fait pas du bien à la nature, ça c'est sûr. C'est-à-dire que quelles que soient les activités qu'on a, elles ont toujours un impact. Quelle que soit la forme d'énergie, elle a toujours un impact.
Alors, c'est important. Si on considère qu'on continue à vivre...
Non, bah exactement. Après voilà. Tout est une question de comparaison. Oui. Vous utilisez un foyer ouvert avec une bûche moisie que vous êtes allé chercher au fond du jardin et qui va mettre 3 heures à commencer à brûler. C'est forcément moins écolo qu'en effet d'un foyer fermé dans un poêle à bois avec des granulés étudiés pour.
Non, mais honnêtement,
c'est une question de comparaison aussi.
Et pardon d'être béotienne là-dessus, mais c'est une vraie question. Aujourd'hui, j'ai une maison que je viens de faire construire, donc j'ai tout l'embarras du choix. Est-ce que vous me dites qu'il vaut mieux ne pas privilégier ce poêle à bois que je comptais mettre, que ce soit un granule ou autre chose, parce que au fond c'est une fausse bonne idée que je croyais très environnementale et finalement pas tant que ça. Est-ce que c'est ça qu'il faut me répondre ou pas en fait?
C'est plus complexe que ça. François a mis une partie de la réponse, c'est-à-dire que ce qu'il faut déjà avoir en tête, c'est quand on brûle du bois, on émet du CO2. Mmh. Ok? Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas pris en compte dans les politiques publiques. C'est comptabilisé comme une émission neutre. Donc c'est un vrai trou dans la passoire qu'on a. Ensuite, si effectivement les granulés que vous utilisez, ils viennent d'une scierie à côté qui a utilisé un bois pour fabriquer une charpente et que ce sont vraiment des déchets qu'on brûle, je suis d'accord, ça peut avoir un intérêt. Mais ce qu'on observe de plus en plus, c'est que ce sont des forêts entières, notamment dans le Morvan, qui sont rasées parce qu'on trouve qu'elles sont de mauvaise qualité pour mettre à la place d'autres arbres, notamment des résineux. Et c'est là où effectivement on commence à tordre le système dans le mauvais sens, c'est que si on commence à récolter des forêts entières ou à utiliser pour faire du bois énergie, là on a un problème.
Ah ben justement, ça tombe très bien avec la question de Maya et vous pourrez répondre, Monsieur Moreau, évidemment, Morneau, juste après. Bonsoir Maya.
Oui, bonsoir France Inter, bonsoir à vos invités. Voilà, je vous appelle parce que moi je connais la forêt, je la pratique depuis mon enfance, j'ai bientôt 60 ans et je suis scandalisée. J'habite en Auvergne, c'est super beau, c'est vrai, mais les forêts de feuillus sont de plus en plus confettis, de plus en plus dispersées. Quand je prends des routes, je vois des forêts mais saccagées, véritablement, les chemins saccagés par les grumiers qui roulent à fond les ballons, enfin bon bref, le profit, toujours le profit. On tombe des hêtres, des feuillus centenaires pour planter des saletés de résineux, mais franchement, c'est insupportable.
N'insultez pas le résineux, Maya.
Oui, pardon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en plus, les douglas, comme ils les appellent, ou les épicéas, sont bientôt victimes de je ne sais plus quel insecte.
Hein.
Enfin bon, voilà. Mais qu'est-ce que ça fout dans nos forêts? Pourquoi on ne respecte pas mieux? C'est exactement comme l'agriculture. On maltraite les animaux, on maltraite la forêt, on maltraite les sols aussi. Ça, j'aimerais qu'on en parle. Et les nappes phréatiques, les petits ruisseaux, les rivières, etc. Et il règne une espèce d'omerta sur le monde du bois en France. Vraiment, voilà, je suis scandalisée.
Ben, on a entendu que vous soyez scandalisée. Les résineux viennent d'appeler, ils ont votre numéro. Et c'est vous qui allez répondre, François Morneau, à l'interrogation de Maya.
Bonjour Maya, merci pour cette question. En fait, derrière cette question, moi j'en vois plusieurs. Il y a une question autour des feuillus et des résineux. C'est un enjeu. Puis il y en a une autre qui est sur le tassement des sols, la taille des engins et les impacts qu'on peut limiter sur les forêts. Et c'est pas la même chose parce que qu'on ait des feuillus ou des résineux, quand on va chercher du bois en forêt, on pose évidemment la question du respect des sols, c'est la richesse de la forêt. Alors pour vous répondre plus précisément quand même sur le Massif Central, moi je travaille à l'inventaire forestier national, donc notre mission c'est de décrire l'ensemble de la forêt à l'échelle nationale et de regarder dans le temps, et ça fait 60 ans que l'inventaire existe, comment évolue cette forêt française. Et on peut avoir quelquefois des effets de loupe quand on habite à côté d'une forêt ou d'une zone, on voit une forêt plantée en résine ou coupée et on se dit que c'est de la généralité, et en fait ça n'est vraiment pas ça. C'est-à-dire que la forêt française, elle est surtout feuillue, elle est majoritairement feuillue, et en fait la part des feuillus ne fait qu'augmenter depuis 60 ans dans les forêts françaises et même depuis plus longtemps. Alors certes, il y a eu des efforts de plantation de résineux, ces fameux Douglas que vous décriez, qui ont pourtant quand même des grandes vertus du point de vue de la construction. C'est un bois matériau, le résineux, qui a des grandes qualités. Le Douglas a aussi un bois qui pousse effectivement relativement vite.
Avec des grandes planches.
Ah oui. Qui fait des planches et surtout qui est naturellement relativement résistant. Donc il peut être mis en place dans un certain nombre d'usages sans traitement. Donc ces Douglas-là, ils ont été plantés justement pour approvisionner la France en résineux, puisque finalement la France est un grand pays forestier, c'est le troisième stock d'Europe.
Après l'Allemagne et la Suède.
Après l'Allemagne et la Suède, mais on importe des sillages résineux parce qu'on n'en produit pas assez.
Ah.
Donc ces plantations de résineux qui ont été faites via le Fonds forestier national, hein, c'était des programmes qui ont eu lieu à partir des années 47 jusqu'en 99. Ils ont aidé notamment au reboisement et effectivement plutôt en résineux. Et effectivement, La zone visée, c'était ces zones de moyenne montagne, donc ce fameux Morvan, ce massif central, le Limousin. Et les résineux étaient plantés là, sur des anciens terrains agricoles.
Mais est-ce que ça veut dire, pour faire peur à Maya, qu'il en faudrait d'autres, en fait, des résineux de ce type ?
Alors, en fait, si on regarde par rapport au marché du bois et aux besoins du bois en construction, si on regarde par exemple les charpentes, quand on fait des maisons, elles sont en résineux, effectivement. Et donc, pour ça, il y a besoin de grumes, de douglas, ou d'épissas, de sapins, qui sont utilisés à cet effet.
Avant de retourner au standard ou de donner la parole à Sylvain Angevin, il y a une chose que vous avez dite, François Morneau, vous avez parlé du tassement des sols, et notamment des passages d'engins, et qui font partie, effectivement, des résineux. Pour lesquelles il y a parfois du souci à se faire. Moi, du coup, je m'interroge. Est-ce que ça veut dire qu'il faut exploiter mieux, ou est-ce que ça veut dire, c'est aussi ce que soulignait notre auditrice Maya, qu'il faut parfois laisser vivre, en fait, et laisser plus vivre la forêt qu'on ne la fait vivre aujourd'hui.
Alors Sylvain complétera peut-être sur l'exploitabilité, mais en fait, il y a des cycles sylvicoles et une gestion qui est appliquée à ces espaces forestiers, et à partir d'un moment, on décide qu'on va récolter, et évidemment, il faut sortir les bois, et pour ça, ça se fait avec des engins. Alors normalement, les techniques, et la foresterie française a quand même, et dans le mondial, a progressé énormément, et essaie de normalement limiter les impacts des engins. C'est-à-dire que certes, vous avez des engins qui vont aller dans les forêts, localement, ils vont tasser, et normalement, même les préconisations, c'est de ne pas aller quand les conditions de sol ne sont pas portantes, mais malgré tout, normalement, ces engins sont censés n'aller que sur des toutes petites parties des parcelles et de laisser intact le reste.
Sylvain Angevin, là-dessus, moi je me posais cette question effectivement en préparant cette émission, dans la masse de forêt qui est la nôtre, quel pourcentage est effectivement exploitable et exploité, et faudrait-il changer, si je puis dire, ces pourcentages-là?
Ah, alors c'est une question qui est un peu compliquée. Quel est le pourcentage de forêts exploitables exploitées? Aujourd'hui, effectivement, il y a une grande partie des forêts qui ne sont pas exploitées, tout simplement parce que la forêt française, elle est aux trois quarts privée, et très souvent des petites parcelles. Et les propriétaires privés, peut-être que vous, nos auditeurs, certains sont propriétaires sans le savoir et n'exploitent pas la forêt. Et ce qu'on constate, effectivement, c'est que l'exploitation a tendance à se concentrer plutôt dans certains massifs forestiers. Et parfois, on peut voir effectivement des formes de surexploitation avec des dégradations des sols. Et c'est là toute la complexité du débat, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on continue de voir effectivement ces pratiques exister. Est-ce que c'est de là en faire une généralité, c'est toujours compliqué. Mais dans certains territoires, effectivement, ça pose des vrais problèmes de modification des paysages, de destruction des sols. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans le Morvan et en Auvergne encore récemment. On est régulièrement alerté sur l'exploitation forestière, par exemple, en période où en fait les sols sont mouillés, tout simplement parce qu'il faut sortir beaucoup de bois, il faut aller vite, et donc normalement on n'est pas censé faire de chantier quand les sols sont pas réessuyés, et on a observé notamment l'année dernière beaucoup de chantiers qui ont été faits dans des mauvaises conditions.
Ce qui est critiqué aussi, Sylvain Angevin, je pense que dans le Morvan, c'est la monoculture aussi. C'est le fait que...
Effectivement, moi, j'aimerais compléter la
réponse. On plante une essence d'arbre. Allez-y.
Ce qui est important, c'est qu'effectivement, François a expliqué qu'aujourd'hui, on construit les maisons avec des résineux. Mais ça, c'est pas une fatalité. C'est qu'en fait, on a essayé de copier les pays du Nord, qui sont plutôt des pays qui ont des résineux. Nous, en France, François le disait, on a des feuillus. Eh bien, on pourrait développer des techniques, des technologies pour pouvoir utiliser beaucoup plus facilement nos feuillus en construction, et notamment les techniques de lamellé collé qu'on est en train de développer aujourd'hui, mais sur lesquelles il faudrait miser massivement. Et là, en fait, effectivement, on pourrait dire, mais quel est le lien, en quoi ça permettrait de mieux protéger les forêts? Et en fait, tout est lié, c'est-à-dire que si vous avez une industrie du bois qui réclame du résineux, on va avoir tendance à transformer la forêt en résineux. Si au contraire, vous avez une adéquation entre ce que la forêt donne, c'est-à-dire de nombreux feuillus diversifiés, de qualité très variable, alors des très beaux chênes, ça on sait les valoriser, hein, pour faire du mérin, mais on a aussi beaucoup de feuillus de qualité secondaire, un peu tordus et autres, qu'il faut savoir utiliser.
Et peut-être que
si on arrive effectivement à avoir des scieries qui malheureusement disparaissent les unes après les autres, capables de transformer ce bois, on aura une forêt qui sera plus riche, plus diverse.
Et peut-être que c'est à un charpentier qu'il faut aussi poser cette question, ça tombe bien, on en a un. Bonsoir Loïc.
Bonsoir.
On vous écoute Loïc.
Eh ben, nous on est charpentiers en Normandie, on a une modeste entreprise, on pense pas révolutionner le monde de la charpente, mais en effet, nous on est tout à fait en adéquation avec tout ce qu'il vient de dire dans cette émission, Nous, on valorise en fait des bois tordus. On revient au savoir-faire ancien. On prétend pas révolutionner le monde de la charpente. Mais en fait, en allant choisir nos arbres en forêt, en les taillant à la main, donc on a quand même une scierie à notre disposition pour d'éviter les plateaux, par exemple, et ensuite les tailler donc à la hache, en fait, comme au XIIIe siècle, et ben on redonne une valeur à cette forêt qui, aujourd'hui, part en bois énergie. Et c'est tellement triste, en fait, de voir tous ces arbres qui peuvent être valorisés. Et juste parce que sur cette parcelle, il y en a la moitié qui est un tout petit peu tordue et qui ne pourrait pas être sélectionné pour une série, et ben on coupe tout et on envoie tout en bois énergie. Quoi.
Merci Loïc, merci vraiment. Bois tordu et fruits moches, même combat. Je dis ça sans plaisanter, parce que c'est vraiment de ça dont on est en train de parler. François Morneau, sur la remarque de Loïc, notre ami de Normandie.
Oui, je vais essayer de répondre à Loïc. Effectivement, je ne suis pas forcément le mieux placé, mais sur le fond, effectivement, il y a toute la question de la forme des arbres, de la sélection et du travail du civiculteur qui, sur le long terme, fabrique ses forêts, sélectionne ses arbres. Et de ce qui peut être fait avec les arbres et éventuellement avec ceux qui n'ont pas les formes qui sont parfaitement adéquates. Donc la solution de Loïc est une solution effectivement intéressante. La question de fond pour moi, c'est plutôt à l'échelle du territoire et de l'accroissement gigantesque de la surface et du volume de forêt, c'est comment on est capable sans doute à l'échelle de la France de valoriser ce que disait Sylvain, c'est-à-dire le potentiel de production et notamment cette ressource feuillue. Si on est le troisième stock en Europe, on est aussi vraiment le premier sur les feuillus. Et il y a la question de la transformation. Et effectivement, la transformation à la main, c'est un travail qui est intense en main d'œuvre, mais ça ne répond sans doute pas aux besoins de transformation et d'utilisation d'un matériau noble, le bois, qui effectivement pousse en quantité dans nos forêts.
Pardon, je me demandais si vous aviez fini, mais très bien, moi j'ai une question naïve à vous poser, François Morneau, que j'ai eue en lisant votre ce rapport annuel. Donc la forêt s'agrandit, effectivement, vous le disiez, en hectares elle s'agrandit, pardon, on la met où en fait?
On la met où? Et c'est une très bonne question. Alors il faut replacer pour les auditeurs peut-être la dynamique de la forêt française. Il faut voir que la forêt a été défrichée, utilisée massivement pendant des siècles, depuis le bas Moyen-Âge sans doute, et on est passé par
ce qu'on appelle faire des terres agricoles, d'ailleurs.
Pour en faire des terres agricoles, et puis aussi parce que l'énergie, le bois énergie pour le coup, était une des seules énergies utilisables à l'époque, et on est arrivé jusqu'à un minimum forestier des premières moitiés du 19e siècle. Et à partir de là, il y a eu plusieurs choses qui expliquent que la forêt a pu regagner du terrain. Il y a eu l'arrivée d'autres énergies, le charbon, le pétrole après, et puis l'exode rural qui a commencé à cette époque-là et qui a fait une déprise effectivement agricole. Et la forêt a reconquis des territoires. Elle a reconquis vraiment massivement. En 150 ans, la surface de la forêt, elle a à peu près doublé. Et ce qui est encore plus impressionnant, parce qu'on a effectivement une forêt qui est nouvelle, mais c'est que le volume de forêt, lui aussi, a augmenté, mais beaucoup plus que ça. Il a plus que triplé dans l'intervalle, et même sur une vie humaine courte, c'est-à-dire que sur les 35 dernières années, on a gagné 60% de volume. Alors ça dit pas grand-chose, mais globalement, si j'arrondis, on a à peu près 3 milliards de mètres cubes de bois en forêt, d'après les données de l'inventaire. Et en fait, en 35 ans, on a gagné 1 milliard, 1 milliard de plus.
Ce qui est beaucoup, en effet, Sylvain Angerand, moi, il y a une chose qui m'étonne aussi, c'est qu'à la fois, donc, nous avons ce volume qui est de plus en plus important, mais en même temps, ce même volume est de moins en moins bien portant. Donc, à quel moment l'augmentation du volume ne compensera plus, selon vous, le fait que la forêt en elle-même ne se porte pas forcément très bien, en tout cas par endroit?
Alors déjà, cette augmentation de volume, il faut la remettre en perspective. La forêt française, elle est très jeune. Plus de 80% de la forêt française, elle a moins de 100 ans. Alors que sous nos latitudes, si on laissait la forêt s'épanouir, les arbres atteindraient largement au-delà de 500-600 ans. Donc on a une forêt qui est très jeune, donc il est tout à fait normal qu'elle continue à croître. Et j'ai envie de dire tant mieux, parce que c'est une partie de la solution, vous l'avez rappelé au début de l'émission, on va avoir besoin d'absorber du carbone pour pouvoir essayer de stabiliser le climat. Donc on va avoir besoin d'une forêt qui continue à absorber du carbone.
Pour l'instant, elle en absorbe 83 millions de tonnes de CO2, la forêt, on en émet 110, c'est sous votre contrôle que je parle, 400 et quelques en millions de tonnes, est-ce que je me trompe?
Oui, on dit c'est vrai que c'est de l'inventaire, les chiffres de l'inventaire qui disaient qu'en gros il y avait 83 millions par an de tonnes de CO2 équivalent absorbées par les forêts françaises. En fait, toujours un chiffre à la louche, c'est difficile de...
Pour mettre en perspective avec, effectivement, le montant des émissions de la France qui est de l'ordre de 465 millions de tonnes par an. Okay. Donc effectivement, c'est le puits principal d'absorption pour le pays et largement.
Mais je voudrais quand même dire que le Haut Conseil au climat a rendu un rapport en juin qui montre que les forêts françaises absorbent moins qu'avant. Parce que elles sont aussi victimes du réchauffement climatique. Il y a des sécheresses à répétition, les arbres en souffrent, ça favorise les maladies, ça favorise les champignons, les insectes. On le voit dans le Grand Est, il y a des collines entières d'épicéas qui sont détruites. Donc les arbres sont aussi victimes du réchauffement climatique.
Ce que j'ai vu dans votre rapport, François Morneau, là-dessus, c'est châtaignier du Sud-Ouest, le frêne, une mortalité multipliée par 2 ces 10 dernières années, l'épicéa commun chez les conifères, etc. Quand on vous lit comme ça, ça fait un peu hécatombe quand même.
Oui, un petit peu, effectivement. Et à chaque fois qu'il y a un problème sur une essence, on se dit qu'on perd une corde à notre arc dans les possibilités d'adaptation au changement climatique. Donc évidemment, ce sont des choses qui peuvent être un peu inquiétantes, mais avec des origines pour chacun de ces dépérissements qui sont assez différentes, mais toutes en partie liées aux changements globaux et à la mondialisation. Je m'explique, le châtaignier, il souffre notamment de champignons, l'encre et le chancre, qui se développent fortement. Et il se développe notamment dans des anciens peuplements qui sont des forêts privées, des taillis, qui sont plus gérés.
D'accord.
Pour le coup, et où il peut se déployer. Et effectivement, le premier arbre et la première source de mortalité, c'est le châtaignier. Les châtaigniers qui meurent, c'est plus de 20% de la mortalité en France.
Ça,
rien que le châtaignier.
Rien que le châtaignier, et ça, c'est dû en partie donc au fait que certaines parties de forêt ne sont mal exploitées ou pas exploitées du tout.
Et que... On peut ajouter à ça que la dynamique de ces champignons est favorisée aussi par des successions d'été plus secs, d'hiver plus doux, qui permettent aussi à ces pathogènes de se répandre et d'aller...
Oui, parce que l'hiver, en fait, les pathogènes, comme l'hiver est doux, ils sont plus tués par, par le froid de l'hiver, en fait. Donc.
Dire qu'on importe, sans le vouloir, évidemment, des nuisibles, des insectes, etc., qu'on ne devrait pas voir dans nos forêts, mais qu'on voit quand même dans nos forêts.
Alors évidemment, c'est le cas. C'est le cas de l'encre et du chancre. Ce sont des champignons qui sont originaires d'Asie. Il y a beaucoup de choses en fait qui sont originaires d'Asie. Pour le frêne, ça c'est beaucoup plus récent. Je vous ai dit que pour le châtaignier, c'est plutôt des pathogènes qui sont arrivés il y a 70 ans. Pour le frêne, c'est quelque chose qui est arrivé en 2008. La première détection, la calarose du frêne, c'est pareil, c'est un champignon. Et à peu près, à part le massif pyrénéen, l'ensemble des frênes sont touchés. Et là, pour le coup, c'est un taux de mortalité énorme dans les jeunes peuplements.
Je voudrais juste ajouter qu'il y a quand même tout un programme à l'ONF pour adapter les forêts au changement climatique. Il y a notamment un projet emblématique qui s'appelle le projet Giono, qui est mené dans la forêt de Verdun, qui est une forêt de conifères, où on va chercher des arbres du sud de la France, je crois que c'est des hêtres, et on va les planter à Verdun parce qu'ils sont censés mieux résister à la sécheresse. Donc on va devoir aussi s'habituer à un changement de paysage de la forêt qu'on connaît.
Alors peut-être que la forêt de Maya va à nouveau changer de visage, donc à nouveau. Sylvain Angerand, vous vouliez intervenir, on vous écoute.
Oui, un commentaire sur le châtaignier et puis sur ce dépérissement, puisqu'effectivement c'est un peu la question centrale. Moi je ne pense pas que le châtaignier dépérisse spécialement parce que les forêts ne sont pas exploitées, c'est qu'au contraire, ce sont des forêts qui ont été surexploitées. Ce sont bien souvent des taillis, alors les taillis ce sont des arbres, on coupe à la base et donc ça repousse. Et c'est souvent des peuplements qui ont été tellement exploités, notamment pour l'énergie, qui sont aujourd'hui fragilisés et qui sont plus sensibles à ces maladies. Sur l'autre gros morceau du dépérissement, ça a été abordé, c'est dans l'est de la France avec ces épicéas. Là, c'est quand même important d'en parler parce qu'effectivement, l'épicéa, c'est un arbre de montagne. Et on l'a planté en fait en plaine, justement à cette grande époque après la guerre avec le Fonds forestier national, en se disant c'est génial, ça va nous faire du bois, ça pousse vite. Et donc ce qu'on voit aujourd'hui, en fait, on s'y attendait. On savait que c'était un arbre qui n'aurait pas dû être planté là. Et le changement climatique, en fait, il va jouer un rôle de révélateur d'un certain nombre de vulnérabilités qui sont accumulées et qui sont bien souvent liées à la façon dont on a géré les forêts ou à la façon dont on a planté des arbres qui ne sont pas adaptés. Je pense qu'on aura le temps de revenir, j'espère, dessus, mais notamment là, le plan du gouvernement qui a été annoncé justement de planter 40 millions d'arbres pour s'adapter au changement climatique, on se rend compte qu'il y a des certaines aberrations dedans, notamment du Douglas qui est planté alors qu'on sait que c'est un arbre qui n'est pas adapté à un climat qui se réchauffe. C'est pourtant le principal arbre qui est planté. Et il y a aussi des introductions d'essences exotiques. ça a été dit sur le frêne, aujourd'hui on va continuer d'introduire des essences exotiques, donc potentiellement des pathogènes.
Alors on y viendra.
On voit, en fait.
Pardonnez-moi, monsieur Angerand, on va y venir avec une question dans un tout petit instant, mais il y a Elisa qui nous attend depuis très longtemps, depuis 20 minutes, je veux pas qu'on l'oublie. Bonsoir Elisa.
Bonsoir, mais c'est passionnant Fabienne, et merci d'inviter Canopée. Alors, les coupes rases, stop. Abolition, les coupes rases, c'est clair. Voilà. Et quid des insectes qui vivent du bois mort et des souches pourries? Ils créent de l'humus, ils gardent les sols humides. Si les forêts sont trop nettoyées, qu'on fait du dessouchage, qu'on enlève le vieux bois, les forêts deviennent vulnérables aux aléas climatiques. Et sinon, Sylvain, à l'aide, le bois le juc va être rasé.
Allons
à la
bon.
Place. Oui, une cheminée de 40 mètres va cracher des gaz radioactifs. On continue pendant 130 ans le projet CIGEO. Protégeons les forêts de la prédation des industriels.
Voilà, Sylvain Jean, vous vous occuperez du problème particulier de Elisa, qui semble-t-il est dans la Meuse. Moi, ce qui m'intéresse dans sa question, François Morneau, c'est on sent bien qu'il y a une sorte de débat. Attention à pas trop raser. Il faut pas trop déforester, il ne faut pas trop enlever un certain nombre de choses. On nous parle d'insectes qui doivent pouvoir se nourrir du bois mort, donc si on enlève tout ça, c'est un problème. Et moi, ce que je lis aussi, précisément, on parlait tout à l'heure de l'épicéa qui avait un problème, c'est que les insectes qui d'habitude s'en prennent aux arbres morts sont en train de se déporter, si je puis dire, sur des arbres moins morts. Donc on a vraiment l'impression qu'il y a deux écoles en fait derrière la forêt, ou même peut-être plus que deux d'ailleurs, François Morneau.
Alors je vais essayer de répondre à ces questions et à celles des Isa, j'en vois effectivement plusieurs. Donc en revenant d'abord sur les épicéas, puisque c'est votre question, les épicéas ont souffert de la sécheresse effectivement, et ce qu'a dit Sylvain, c'est qu'on les a plantés sans doute en limite d'air, en les faisant descendre des montagnes. Et évidemment avec le réchauffement climatique, ils sont soumis à des stress et ils dépérissent. Quand ils dépérissent, il y a un insecte qui est assez classique, c'est ce fameux scolyte, qui est plutôt un insecte secondaire, un ravageur secondaire, c'est-à-dire qu'il vient sur les arbres qui sont un peu affaiblis.
C'est ça.
Et il vient les tuer. Mais évidemment, si ces arbres se multiplient, ça induit une pullulation, un pic de ces insectes, de ces scolytes. Et dans ces cas-là, dans ces pics de pullulation, ces insectes sont aussi capables d'aller attaquer des peuplements sains. Mais c'est un cycle qui est relativement bien connu et qui doit retomber après avec l'exploitation des bois.
Donc, débroussailler beaucoup, débroussailler peu, supprimer les coupes rases ou ne pas supprimer les coupes rases, qu'est-ce qu'on répond à ça?
Alors ça, c'est tout un autre débat. Ouais. Il y avait aussi d'autres choses dans la question d'Elisa. Il y avait évidemment les coupes rases, puisque c'est assez emblématique. Ce qu'on a dit sur les forêts qui changent et qui sont multipliées, et on ne le voit pas en fait, personne ne le perçoit. Par contre, quand il y a une coupe, évidemment, tout de suite, c'est facile à repérer et l'œil voit le changement dans le paysage. Donc c'est ça qui attire sur les coupes rases. Ce qu'il faut voir derrière une coupe rase aussi, c'est potentiellement, dans des situations limites, la possibilité de remplacer une espèce qui n'est plus adaptée par une autre qui le soit mieux. Et donc, parce que tout l'enjeu de la forêt et de l'installation d'une forêt, c'est de savoir si on est capable de trouver l'espèce adaptée au contexte actuel, mais qui sera aussi capable de vivre dans 50, 100 ou 150 ans, dans un climat qui aura changé du tout au tout. Donc c'est des enjeux délicats. Et la dernière question, c'était sur le bois mort.
Ouais.
Alors effectivement, ça c'est autre chose.
On ramasse ou est-ce qu'on ramasse pas?
Alors on ne ramasse pas. Les forestiers, quand même, depuis quelques années, ont bien compris tout l'intérêt du bois mort et des cortèges, effectivement, de la biodiversité associée. Et quelque part, malheureusement, j'ai envie de rassurer Elisa, c'est-à-dire que les chiffres dans l'inventaire le montrent, le volume de bois mort ne cesse d'augmenter. C'est-à-dire qu'effectivement, avec les changements climatiques, on n'est pas prêt de manquer de bois mort en forêt, quelque part, malheureusement.
Et moi, j'ai entendu aussi que, notamment contre les incendies, par exemple, trop de bois mort, ça pouvait favoriser un certain nombre de choses. Est-ce que ça, c'est une réalité, donc un danger, et qui est aussi la raison pour laquelle on ramasse, ou est-ce que c'est très anecdotique?
Alors, ça, ce sont plutôt des types de gestion qui ont lieu dans d'autres contextes, alors plutôt méditerranéens, mais on sait que les risques incendies montent au nord, notamment avec le changement climatique, et où effectivement, pour lutter dans certaines situations, on essaie de retirer la végétation basse. C'est même moins le bois mort qu'à la rigueur les petits arbustes. C'est plutôt de la lutte pour éviter la propagation des incendies, et ça se pratique, mais ça se pratique pas et loin de là, partout en forêt.
Sandy, et puis Sylvain Angevin voulait intervenir.
Oui, j'avais une petite question à l'inventaire des forêts. Est-ce qu'il y a une tentation? Est-ce qu'on voit des plantations d'eucalyptus en France en ce moment? C'est une tentation un peu partout dans le monde. C'est un arbre qui pousse vite, mais qui est assez décrié, justement.
Donc les essences exotiques, justement, dont on parlait.
C'est parti, les essences exotiques, effectivement. Alors, ce qu'on peut dire sur l'eucalyptus, c'est déjà que, du point de vue de l'inventaire, on fait à peu près un point pour 2000 hectares. Donc, globalement, pour commencer à voir et dire quelque chose, il faut commencer à avoir une surface conséquente. Il y a quand même très peu d'eucalyptus en France. Les tentatives d'eucalyptus, il y a eu des plantations plutôt dans les années 80, des tentations du côté de la Corse et des Landes, avec beaucoup de déconvenues liées à la faible résistance aux gelées de ces peuplements-là, qui sont morts en partie.
Sylvain Angevin.
Oui, pour revenir sur la question du risque incendie, parce que c'est une question qui a animé fortement les débats pendant les assises de la forêt organisées par le gouvernement.
Et qu'on entend à chaque fois qu'il y a un gros incendie. Donc
Exactement, et notamment cet été avec ce qui s'est passé dans la réserve des morts.
Ouais.
Ce qu'il faut bien voir, c'est que quand on analyse la littérature scientifique, on est loin d'avoir un consensus dessus, déjà parce qu'en fait, en fonction du climat, on va avoir des facteurs différents qui vont peser. Ce qui est sûr, c'est qu'en zone méditerranéenne, il faut débroussailler autour des habitations, autour des routes. Mais ça, on parle d'un périmètre d'une bande de 50 mètres, d'accord ? Pour éviter que le départ de feu. Ensuite, ce qui va être important, c'est d'avoir des pistes d'accès pour pouvoir éteindre l'incendie le plus tôt possible. Les 10 premières minutes sont cruciales. Donc là, on est plus sur une organisation des services, d'avoir suffisamment de personnel sur place et de la réactivité. Mais ensuite, en termes de gestion forestière, ça n'est pas parce qu'on a une forêt en libre évolution ou une forêt fortement gérée, on va pas avoir de grandes différences sur les grands incendies. Voilà, c'est vraiment ça qui est important. Et au contraire, on s'est rendu compte qu'une forêt, notamment des morts, qui est très hétérogène avec des grands arbres, notamment les chênes-lièges, ils acquièrent leur résistance au feu à partir d'un certain diamètre. Donc elles vont pas être spécialement plus résistantes au feu. Par contre, elles vont être plus résilientes, ces forêts diversifiées. Elles vont avoir une capacité à revenir de façon plus importante. Donc c'est vraiment ça qui est important. Il ne faut surtout pas se dire qu'au prétexte de lutter contre les incendies, on va se mettre à ramasser tout bois mort dans les forêts méditerranéennes, parce que ça sera une catastrophe en termes de biodiversité et du coup de résilience.
Abigail est avec nous, qui nous appelle des Côtes d'Armor et qui rejoint d'ailleurs ce que vous nous expliquiez tout à l'heure sur les différents plans de replantage. Bonsoir Abigail.
Oui, bonsoir. Bonsoir, merci pour votre émission. Alors, en fait, Monsieur Angevin a répondu à la première partie de ma question, puisque moi, ma première question, c'était quelle est la proportion de forêts privées, de forêts publiques. Donc, il a dit tout à l'heure 3/4 de forêts privées. Ce que je voulais aussi savoir, c'est si les forêts publiques peuvent être vendues au privé. Est-ce que ça arrive? Est-ce que l'État vend des forêts publiques au privé?
François Morneau, est-ce que ça bouge beaucoup?
Alors, pour le coup, là, on peut répondre effectivement. Alors, dans les forêts publiques, il y a plusieurs types de forêts publiques. Il y a les forêts de l'État, les fameuses forêts domaniales, et puis il y a ce qu'on appelle les autres forêts publiques, qui sont les forêts de collectivités, et en premier lieu, évidemment, les forêts communales. Donc, ces forêts sont extrêmement bien protégées, particulièrement les forêts domaniales, et elles ne peuvent pas être cédées. Ça fait partie du domaine inaliénable. Quelquefois, il faut, par contre, quand il y a un projet d'infrastructure qui doit passer dans ces forêts, ça peut arriver, elles peuvent être effectivement en partie coupées. Mais sinon, ce qu'il faut voir, c'est que globalement, sur le long terme, les forêts domaniales sont très stables en surface. Elles ont plutôt eu tendance à s'accroître légèrement, c'est-à-dire que le domaine de l'État s'est légèrement étendu, mais faiblement. Et par contre, elles se sont accrues aussi dans les forêts des collectivités. C'est les surfaces de forêts qui ont augmenté. En revanche, beaucoup moins que les forêts privées. Ce qu'il faut voir, c'est que effectivement, on dit qu'on a 3/4 de forêts privées, mais il y a un siècle, on n'avait que 65% de forêts privées. Donc en fait, l'expansion forestière, elle se fait dans de la petite forêt privée, dans la zone méditerranéenne beaucoup, et en Bretagne. C'est pas partout.
Et alors, moi j'aimerais comprendre, Sylvain Angevin, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? C'est-à-dire, est-ce qu'il faudrait, selon vous, que l'État en ait plus? Et vous allez nous expliquer pourquoi, ou est-ce que de toute façon ça ne change rien en fait, et qu'on peut travailler aussi bien avec le privé qui représente donc encore une fois 3/4 des forêts?
Ouais, aujourd'hui l'enjeu il n'est pas sur la quantité, il n'est pas sur la surface, il est sur la qualité de la forêt. C'est vraiment ça qui est important à comprendre. Il faut savoir, on l'a abordé la question, on a une forêt qui est riche en feuillus, il faut être capable d'avoir des scieries qui transforment des feuillus et non pas des scieries qui réclament des résineux, mmh. ou encore moins exporter nos chênes vers la Chine.
Mais les 40, ça, c'est le premier point. Mais les 40 millions d'arbres dont vous parliez tout à l'heure, Sylvain Angeran, par exemple, ça va dans les forêts domaniales, ça va où en fait quand c'est un plan comme ça?
Ça va en partie dans les forêts domaniales, mais ça va beaucoup dans les forêts privées. Les statistiques qu'on voit donc de ce plan de relance, c'est qu'essentiellement ce qui est planté, c'est du Douglas, c'est du chêne sessile, donc ça c'est plutôt bien, et c'est du pin maritime. Le pin maritime, comme l'eucalyptus, ce sont des arbres qui sont sensibles aux incendies. Et l'eucalyptus, il faut voir ça où j'ai pas pu répondre tout à l'heure dessus, mais c'est quand même un arbre qui est extrêmement sensible aux incendies, qui est aujourd'hui éligible dans les mécanismes de reboisement du gouvernement. Et donc c'est là où nous on est plus que sceptiques, on est même en colère très franchement. Quand on rase des forêts existantes, bien portantes, juste parce qu'on trouve que le bois n'est pas de bonne qualité, comme ça a été expliqué par le charpentier, simplement parce qu'on n'est pas capable de le transformer, pour mettre à la place du Douglas, donc reproduire potentiellement l'erreur de l'épicéa, ou de l'eucalyptus plus sensible aux incendies, on s'est dit que là, on marche à l'envers. Il faut mieux essayer de se dire comment on fait pour, avec nos forêts existantes, les accompagner, les adapter au maximum et garder ce qu'on appelle un couvert continu. Éviter la coupe rase au maximum. La coupe rase, c'est l'arme de dernier recours. Sauf qu'aujourd'hui, on voit que de plus en plus de forestiers utilisent la coupe rase pour transformer la forêt. Et ça génère beaucoup d'incompréhension, comme on l'a vu avec les auditeurs.
Il nous reste une petite minute, Yann, donc votre question va être rapide, mais on est ravis de l'entendre, on vous écoute.
Je me demandais qui était en charge finalement de faire les plans de replantage des arbres. Qui décide de ne planter qu'une seule espèce après avoir fait une coupe rase? Je pense que la question est centrale aujourd'hui.
Et est-ce que vous pouvez répondre à ça, François Morneau? Comment ça se décide au niveau du quand on replante?
Alors, pour le coup, ça va beaucoup dépendre de la situation, mais dans les forêts qui sont soumises à un plan de gestion, c'est-à-dire toutes les forêts publiques évidemment, et puis les forêts privées avec un plan simple de gestion, normalement, ces programmes-là sont prévus, c'est des programmes de travaux qui sont prévus et soumis aux autorités. Après, dans le détail, ça revient évidemment, cette décision, au propriétaire qui peut choisir sans doute en partie l'essence pour replanter. Il n'a pas un choix complètement exhaustif.
Mais dans ces cas-là, est-ce que c'est pour vous, par exemple, est-ce que c'est une gestion locale, régionale, nationale? Comment vous faites le calcul en fait sur ce qui doit être planté?
Alors pour le coup, c'est pas l'inventaire. L'inventaire va vraiment observer ce qui se passe. C'est pas lui qui va décider de ce qui doit être planté.
Et si on vous demandait votre avis, Sylvain Angeran, oui, vous avec votre casquette associative, vous répondriez quoi?
C'est qu'aujourd'hui, on a besoin de mettre davantage de règles en forêt, y compris en forêt privée. Aujourd'hui, quand vous avez une maison, vous pouvez pas mettre des volets roses. En forêt, c'est pareil. Si vous avez la chance d'avoir une forêt riche et diversifiée, c'est pas normal de pouvoir la raser pour mettre à la place des résineux. Et ça, effectivement, c'est des règles qu'il faut changer. Et il se passe la même chose qui s'est passée en agriculture dans les années 50. C'est-à-dire qu'on a vu une concentration des petites coopératives devenir de plus en plus grosses. Et aujourd'hui, en France, on a ce problème. On a une énorme coopérative qui s'appelle Alliance, qui couvre toute la façade ouest de la France et qui s'est spécialisée dans le pin maritime. Donc, elle est née dans les Landes. Et aujourd'hui, moi, je suis dans le Maine-et-Loire. Et ce qu'on propose aux propriétaires, c'est de planter du pin maritime. Voilà. Et c'est cette homogénéisation qu'il faut éviter. La forêt, c'est notre chance. Elle est diversifiée. C'est notre atout pour résister au changement climatique. Il faut qu'on se batte pour ça.
François Morneau, vous avez 10 secondes, mais je me souviens que j'ai posé une petite question en fin d'introduction tout à l'heure qui disait qu'est-ce qu'on fait de notre manie de planter un arbre pour nous dédouaner d'avoir pris l'avion? Est-ce que ça a un sens, honnêtement?
Est-ce que ça a un sens? Ça fait partie, mine de rien, du plan aussi au niveau européen de planter, d'augmenter la surface des forêts pour augmenter ce stockage de carbone. Donc il y a effectivement un enjeu. Et sinon,
donc on peut y aller, on peut le promettre, on peut toujours promettre de planter notre arbre alors.